L'épluche livre.
Vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange.
Des cornichons, de la moutarde.
Face aux refus et aux portes closes, Agnès choisit une voie de contournement. Elle s'inscrit à une formation d'infirmière, le seul domaine où les femmes étaient tolérées. Une première étape vers son rêve de médecine. Autour d'elle, les voix sceptiques se multipliaient. On lui rappelait ses engagements. L'enseignement auprès des enfants des rues, sa lutte pour le droit de vote des femmes et contre la pauvreté. Pourquoi renoncer à ces nobles causes pour une carrière médicale incertaine? N'avait-elle pas déjà 30 ans, un âge où il paraissait insensé de changer radicalement de trajectoire?
Chères auditrices, chers auditeurs, vous écoutez L'Épluche Livre. Vous venez d'entendre un extrait du roman biographique L'incroyable destin d'Agnès McLaren, lu par son auteur Thibaut Casanova, qui partage notre table littéraire ce midi. À vos fourchettes!
Docteur Miracle, ce n'est pas un charlatan. Il soigne riche ou pauvre et le plus étonnant. Il n'a qu'un seul remède, un seul médicament. Il dit que I ou A A Ting Tang Walla Bing Bang.
Thibaut Casanova, bonjour.
Bonjour.
Vous signez aux éditions Papillon Rouge un ouvrage sur la première diplômée de la faculté de médecine de Montpellier, Agnès McLaren.
Oui.
Merci pour cette lecture introductive.
Merci pour l'invitation.
Et donc, comment vous est venue l'idée de ce texte, l'idée de ce sujet, cette figure passionnante qu'est Agnès McLaren?
Une visite à la faculté de médecine de Montpellier, il y a quelque temps, en famille, où j'ai découvert, outre l'architecture magnifique de la faculté, deux éléments qui m'ont interpellé. Le premier, bien sûr, c'est le portrait d'Agnès McLaren, où il était identifié qu'elle était la première femme médecin de la faculté de Montpellier, et écossaise. Et j'adore l'Écosse pour différentes raisons, la culture, l'identité, le patrimoine. Et le deuxième élément concerne le fait que j'ai découvert un panneau, une plaque sur laquelle étaient indiqués les premiers maîtres de la faculté de médecine de Montpellier, et en l'occurrence le premier maître est un nommé Samuel Bentibon de Lunel, ville dont je suis originaire. Ces deux éléments ont fait que j'ai eu envie de m'intéresser particulièrement à la trajectoire et au parcours d'Agnès McLaren.
Donc vous avez entamé un travail de recherche suite à votre visite, c'est bien ça?
Exactement, j'ai entamé un travail de recherche et très rapidement j'ai appris qu'après avoir été diplômée de médecine, elle avait exercé en tant que médecin à Cannes et Antibes, où elle est enterrée, dans les Alpes-Maritimes, où j'habite depuis 25 ans. Et donc j'ai trouvé que ça faisait beaucoup de liens et de connexions, et ça m'a incité à approfondir mes recherches.
Donc vous avez trouvé une identité en double un peu, en la personne de Madame McLaren?
J'ai trouvé beaucoup de connexions qui m'ont vraiment motivé à retracer sa trajectoire. Et puis ensuite, très vite, je me suis renseigné auprès de Caroline de Bladis, la présidente de l'association Agnès McLaren à Montpellier. Et elle m'a beaucoup aidé, elle m'a incité à poursuivre les recherches.
Alors justement, et ce faisant, oui, vos recherches, comment vous avez procédé?
Elle m'a donné beaucoup de documents, Caroline de Bladis, et puis ensuite j'ai fait beaucoup de recherches auprès d'archives en Angleterre et aux États-Unis notamment. Aux États-Unis, où Agnès McLaren a une certaine renommée, contrairement à l'Europe, ça m'a permis de collecter beaucoup de documents, beaucoup d'éléments, beaucoup de faits historiques qui m'ont permis de tracer sa trajectoire.
Et ces documents, donc, vous les avez collectés à distance, vous vous êtes déplacé, comment ça se passe un travail, ce travail de fourmi, ce travail d'archiviste un petit peu que j'imagine que vous avez démarré lors de l'écriture de ce texte ?
C'est un travail que j'ai réalisé à distance, effectivement, en contactant différentes associations, différents centres d'archives en Angleterre, notamment, et aux États-Unis. Et également la descendance indirecte via la famille de Agnès McLaren, qui m'a beaucoup aidé aussi en me donnant des documents, y compris des photos, pour me permettre d'appréhender la personnalité d'Agnès McLaren.
Oui, parce qu'elle n'a pas eu d'enfant.
Non.
Et donc, vous avez été lié par les descendants de ses neveux et nièces, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça, exactement, qui ont beaucoup de documents relatifs à Agnès McLaren. Et j'ai ressenti également que ce travail de recherche les intéressait.
D'accord.
Pour avoir un œil un peu extérieur, on va dire neutre et factuel, sur la carrière assez extraordinaire d'Agnès McLaren.
C'était la première fois qu'ils avaient ces sollicitations autour de cette figure familiale ?
À ma connaissance, oui. Et d'ailleurs, moi-même, j'étais surpris et aussi incité à aller au bout, parce qu'il n'y a aucun livre qui retrace aujourd'hui la vie d'Agnès McLaren.
Excepté le vôtre.
Exactement.
Donc Agnès McLaren, donc première femme diplômée de la faculté de médecine de Montpellier, elle est née en 1837, décédée donc à Antibes, c'est bien
oui,
ça ?
Alors, en 1913.
En 1913. Elle a eu une vie foisonnante, passionnante. Elle a eu plusieurs vies jusqu'à un âge très avancé. Elle a voyagé notamment en Inde alors qu'elle avait 70 ans. Vous allez nous décrire un peu tout ça. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà de sa première vie qui était plus axée autour de la politique, du militantisme, du droit de vote des femmes notamment ?
Exactement, elle était dans un environnement très masculin, mais en même temps où beaucoup de femmes voulaient rechercher leur émancipation, et notamment donc en Angleterre et au Royaume-Uni plus globalement, où les femmes recherchaient le droit de vote. Et donc très jeune, elle a été dans ce combat-là, avec notamment sa belle-mère et des amis très proches. Et je dirais, par rapport à ma compréhension, avec l'aval de son père,
d'accord,
qui était une personnalité assez emblématique d'un monde très masculin. Il était maire de Édimbourg.
Donc son papa, Duncan McLaren,
Duncan
c'est bien
McLaren,
ça ?
Duncan McLaren, voilà. Et en fait, il a eu beaucoup de bienveillance avec elle et lui a permis de vivre toutes ses aventures en l'aidant... C'est ce que je comprends matériellement, en fait.
D'accord. D'accord. Donc, c'était un souci en moins pour elle pour pouvoir aller au bout de ses études. Elle n'avait pas à travailler.
Elle a pu aller au bout de ses études et déjà commencer, en plus de ses combats militants, à aider les autres.
D'accord. Donc, vous l'avez expliqué au départ, elle est écossaise de nationalité. Qu'est-elle venue faire à Montpellier ? Alors, bon, on se doute les études de médecine, mais pourquoi à Montpellier et pas ailleurs ?
En fait, donc en Écosse, en Angleterre, les études de médecine étaient interdites aux femmes, en France également. Et en fait, par réseau, donc elle a réussi à pouvoir intégrer la faculté de médecine de Montpellier, ce qui lui a permis d'aboutir à son rêve initial de devenir médecin.
Elle était la seule étudiante.
Oui, elle était la seule étudiante. Il y a un cas précédent, donc Madeleine Bresse, qui est d'ailleurs de la région, mais qui a fait ses études de médecine à Paris et qui a été diplômée l'année d'avant, 1875. Mais effectivement, elle était la seule étudiante à la faculté de médecine de Montpellier. Et je retrace le fait que ça a été en fait assez compliqué pour elle. Elle était regardée d'un œil un peu distant, voire moqueur. Ça ne l'a pas empêchée d'aller au bout.
Alors, elle s'installe à Montpellier seule, ce qui déjà est quand même pas rien à cette époque, une femme vivant seule dans un appartement seule. Elle n'y reste pas longtemps.
Elle n'y reste pas longtemps parce qu'effectivement, elle ressent la solitude, et on peut comparer avec sa vie précédente, où la maison familiale était un foyer de réunions, y compris pour le militantisme. Et en fait, donc, elle ne reste pas seule dans son logement à Montpellier et va dans un couvent des sœurs franciscaines qui l'accueille sans difficulté, alors que, pour replacer les choses dans leur contexte, elle était protestante. Mmh. Et en fait, bien évidemment, c'est plutôt une bonne chose. Ça n'a pas empêché qu'elle soit accueillie à bras ouverts par les sœurs à Montpellier.
Donc vous avez imaginé ou vous avez su peut-être que la première question de la part de ces sœurs, de cette communauté, était « mais êtes-vous catholique ?»
Oui, effectivement, c'était probablement le schéma à l'époque. Mm-hmm. Donc ça a été la première question qui lui a été posée. Mais en fait, peu importait la réponse, elle a été accueillie et a bénéficié de l'hospitalité des sœurs à Montpellier.
Durant combien d'années ?
Elle a fait ses études pendant 2 ans et demi. Mmh. Elle avait déjà un certain nombre de diplômes obtenus en Écosse. Mmh. Et on va dire, par aujourd'hui, on pourrait dire
des équivalences.
Des équivalences. Et effectivement, merci, elle a pu finaliser ses études en 2 ans et demi à Montpellier.
D'accord, très bien. Donc, elle a une vie politique et militante très riche en Écosse, notamment, on ne va pas s'y étendre, mais elle a eu comme figure de compagnonnage Joséphine Butler, donc qui était une militante féministe bien connue. Elle a eu une vie professionnelle, donc déjà premièrement très riche en Écosse, puis qui s'est accentuée, elle s'est spécialisée en médecine en France, pour ensuite partir, on le verra en suite d'émission, en Inde. Et c'est sa vie spirituelle qui se retrouve chamboulée, malgré elle, durant son séjour à Montpellier. Comment vous avez pu retracer justement ce cheminement intérieur qui est quand même assez, qui est quand même personnel, qui est quand même de l'intime, de ce basculement d'une spiritualité chrétienne protestante au catholicisme ?
Alors effectivement, c'est basé sur un certain nombre de témoignages et de récupération d'archives. Et en fait, j'appréhende le fait que ça a été un cheminement très long, beaucoup de réflexions, probablement liées aussi dans l'évolution à un certain poids familial. Comme on l'a évoqué, son père était une figure en Écosse, un protestant... dur, on mm-hmm. va dire, et malgré tout très tolérant et avec beaucoup de bienveillance envers sa fille Agnès McLaren. Et en fait, on comprend que sa démarche pour venir vers le catholicisme a été très longue, et elle a fini par être baptisée à l'âge de 61 ans. Ouais. Son père étant décédé, donc probablement que ça a aussi un lien, ça l'a libérée des dernières limites qu'elle avait pour aller vers le catholicisme.
Très bien. Je vais peut-être vous laisser annoncer, donc comme c'est de tradition autour de cette table, nous laissons le choix aux invités de partager une musique, de partager un morceau qu'ils aiment ou qu'ils l'ont accompagné. Je vous laisse annoncer votre choix.
Ok, c'est la chanson « Where is my mind » des Pixies, une chanson sortie quand j'étais adolescent, donc qui m'a marqué, sur un album emblématique, Surfer Rosa. C'est une chanson, de mon point de vue, intemporelle. D'ailleurs, elle a été reprise dans de nombreux films. Et par ailleurs, les paroles incitent à réfléchir sur le sens de la vie en général.
Allez, on écoute.
Stop. Oh,
Vous écoutez L'Épluche Livre. Nous sommes en compagnie de Thibaut Casanova, auteur de L'incroyable destin d'Agnès McLaren, paru aux éditions Papillon Rouge. Thibaut Casanova, donc, vous nous avez présenté en première partie d'émission la vie, les grands moments d'Agnès McLaren. On sait notamment voilà, qu'elle a vécu très âgée, qu'elle est partie ouvrir des centres hospitaliers, notamment en Inde. Elle est partie, elle a toujours lutté pour les droits des femmes et le droit aussi à l'accès et aux soins. Qu'est-ce que, selon vous, son action a changé pour son temps et pour le nôtre ?
Je pense qu'elle a été une pionnière. En levant des barrières qui étaient à l'époque devant les femmes et leur capacité à faire des carrières dans le domaine médical. Et vraiment avec le sens de l'intérêt commun et la capacité à aider les autres. Jamais dans un intérêt personnel ou de mise en valeur d'elle-même. D'ailleurs, j'aurais imaginé qu'elle écrive beaucoup plus, peut-être ses mémoires ou des textes relatant tout son parcours. Et en fait, non. Elle n'a jamais écrit, ou en tout cas, je n'ai rien retrouvé. Et donc, on voit vraiment quelqu'un plein d'abnégation qui a probablement ouvert la voie à beaucoup d'autres.
Est-ce qu'elle a vraiment facilité l'accès aux soins pour les femmes et les enfants comme était son objectif ? Est-ce qu'il y a eu vraiment un avant, un après ?
Oui, clairement, en Inde, elle a ouvert la voie des missions catholiques, puisque sous la bannière catholique, elle a ouvert le premier hôpital pour les femmes et les enfants en Inde, à Rawalpindi, pardon. Et en fait, pour avoir un peu étudié la suite, on se rend compte qu'ensuite, de multiples dispensaires et hôpitaux ont été créés.
Est-ce qu'ils sont toujours présents aujourd'hui ?
Les choses ont beaucoup évolué, les pays ont même changé, puisqu'à l'époque, c'était l'Inde et... à l'époque, c'était dans le Pakistan, maintenant, c'est dans l'Inde. Mmh. Donc, les choses ont beaucoup évolué, mais il reste des grands principes liés à cette époque-là, oui.
Donc, il reste aussi, et qui fait vivre cet héritage, hein, ce matrimoine, donc l'association Agnès McLaren. Vous remerciez à la fin de votre ouvrage Madame Carolis de Bladis, qui est la présidente de l'association. Est-ce que vous pouvez nous présenter les actions de cet asso ?
Oui, je la remercie parce qu'elle m'a en fait beaucoup aidé et elle a été un peu... ma caution, j'allais dire, pour arriver à l'édition d'un livre. J'étais loin de là, en réalité, malgré toutes les recherches. Il y a un pas à franchir entre faire des recherches et arriver à l'édition d'un livre. Et elle m'a beaucoup aidé, beaucoup motivé. Et effectivement, elle anime depuis 10 ans l'association Agnès McLaren à Montpellier. L'association Agnès McLaren a pour but de promouvoir le souvenir d'Agnès McLaren. Et notamment, c'est concrétisé par le fait de la remise d'un prix tous les 2 ans à un étudiant méritant, selon certains critères, de la faculté de médecine de Montpellier. Un prix financier et un prix qui permet une certaine, entre guillemets, notoriété, mais dans le bon sens du terme, pour avancer.
D'accord, donc c'est une association qui est proche des communautés étudiantes en médecine, hein, c'est bien ça ?
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres actions menées ? Il y a peut-être des actions d'aide sociale, des choses comme ça ?
Elle participe également à des actions d'aide sociale et d'aide de femmes en difficulté dans la région de Montpellier.
D'accord.
Par rapport à la notoriété acquise aujourd'hui et puis au travers du souvenir d'Agnès McLaren.
Très bien, une belle association donc à découvrir. On mettra le lien en présentation du podcast après diffusion de l'émission pour ceux qui sont curieux d'aller vers ces bonnes volontés. Donc pour terminer cette émission, et comme il est de coutume, je vais vous questionner sur votre processus créatif, sur la manière dont vous écrivez. Justement, vous le disiez, d'avoir une aide extérieure, donc de Madame de Bladis, ça vous a aidé. Mais sauf erreur, L'incroyable destin d'Agnès McLaren n'est pas votre premier ouvrage. Donc, vous avez déjà un rapport à l'écriture. Comment ça se passe pour vous, le fait d'écrire ?
Alors, je ne suis pas écrivain, je ne suis pas non plus historien. Et donc, en fait, chaque travail que j'ai fait pour l'écriture est un travail de passionné. Sur des ouvrages précédents, en tant que passionné, je vais citer juste deux ouvrages. J'ai écrit un livre sur la grande histoire du stade Armand Cesari à Furiani. En tant que supporter du Sporting Club de Bastia, et après le constat du fait que tout le monde a un lien affectif avec ce bâtiment emblématique, mais personne ne connaissait véritablement son histoire, et également sur les arènes de Lunel, un patrimoine emblématique créé pour la première fois en 1861. Tout le monde a un lien affectif, un souvenir, une anecdote, mais personne ne connaissait l'histoire, et donc j'ai fait des recherches dans les archives. Donc je me suis déplacé beaucoup, archives municipales, archives départementales. Et ensuite, le travail de fond, ben, en général, c'est après le dîner, ouais, quand tout le monde est couché, que je me mets à compléter les recherches sur Internet notamment, ou à compiler toutes les recherches que j'ai récupérées dans les archives. Et je commence le travail d'écriture donc plutôt la nuit, en faisant en sorte de maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle, vie familiale, et ce travail de recherche que je redis, fait systématiquement par passion. Et s'agissant du livre sur Agnès McLaren, en plus de son parcours que je retrace, je dois insister sur le fait qu'elle a parcouru l'Europe. Elle a fait de multiples voyages entre Londres, Édimbourg, Rome, Lyon, Montpellier, Antibes et bien sûr l'Inde. Et j'associe donc tout ce parcours à la description de bâtiments emblématiques de ces villes par rapport à ce que j'aime aussi, la notion du bâtiment, la notion d'architecture.
Puisque vous travaillez dans le bâtiment, si
exactement,
j'ai bien compris.
C'est ça.
Donc il y a les deux passions se rejoignent,
exactement,
dans
l'acte
d'écriture.
Et c'est probablement ce qui m'incite aussi à faire tous ces efforts pour arriver au bout d'un projet.
Vous écrivez depuis combien de temps ?
Je pense que j'écris depuis toujours, en réalité. Donc mon premier ouvrage, lui, est paru en 2013. Mais auparavant, j'ai toujours aimé écrire des comptes rendus, des petits articles de ce type, sur tout type de sujet, en fait.
Ça a été quelque chose de suite, dès l'adolescence. Vous avez participé peut-être, vous parlez d'articles, donc à un club de journalisme, au journal du lycée.
Non, c'est plutôt des démarches toujours très personnelles, donc à partager en famille ou entre amis, en fait.
Sur des recherches, sur de la documentation,
ouais,
du réel.
Ou des comptes rendus. Par exemple, j'ai en tête qu'à une époque, j'allais plus jeune, j'allais voir beaucoup de matchs de foot à travers l'Europe. Et en fait, j'ai toujours fait des comptes rendus de ces matchs de foot. Non pas pour dire qui a marqué et qui a pris un carton jaune, mais plutôt pour resituer le stade que je visitais dans son environnement, essayer d'évoquer le rapport des supporters à leur stade, essayer d'évoquer l'ambiance, l'atmosphère, la ferveur. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, voilà, essayer de transcrire quelque chose de ressenti.
Que sont-ils devenus, ces comptes rendus ?
Alors, à l'époque, c'était la grande époque des forums, donc c'était diffusé sur des forums de supporters, mais j'ai dû en garder quelques-uns.
Ouais. Donc, vous écrivez plutôt papier, plutôt ordi ?
Ordi.
Ordinateur, directement ?
Oui.
C'est un oui, c'est ferme, c'est net,
oui,
pas
oui,
de question.
J'essaie de me remémorer des temps un peu plus anciens, mais j'ai toujours écrit sur
ça
ordi.
A été,
oui.
Votre oui. Outil, c'est votre outil, oui. Toujours d'écriture. Donc un auteur noctambule et on peut dire technophile peut-être.
Oui.
Donc on a maintenant une meilleure image de votre travail, merci beaucoup. On sait que le patrimoine, donc, pour vous est une passion, que le matrimoine aussi d'ailleurs maintenant, avec oui. Tout le travail que vous avez fait autour d'Agnès McLaren. Est-ce qu'on peut voir ensemble un petit peu vos actualités ? Votre livre est sorti très récemment, je crois que vous allez le défendre à la Comédie du Livre ?
Oui, il est sorti en mars 2026, et effectivement je serai présent à la Comédie du Livre le samedi.
Le samedi, toute la journée, oui. Donc au stand de l'Épluche Libre, d'ailleurs.
Exact.
Très bien. Il y aura aussi peut-être Monsieur Delobette, votre éditeur ?
Oui, il sera présent, lui, les trois jours, et en l'occurrence, donc, le samedi aussi avec moi.
Très bien. Il sera présent en tant qu'auteur et qu'éditeur, si je ne me trompe pas, sur le stand de la région, le stand des éditeurs d'Occitanie. Oui. Donc, pour nos auditeurs, n'hésitez pas à découvrir donc cette édition, cette maison d'édition Occitane, donc, et Le Papillon Rouge. Est-ce que vous avez d'autres rendez-vous à donner à nos auditeurs ou déjà la comédie, c'est quand même un grand pas.
Je serai présent aussi à Cultura le 13 juin.
Oh, quelle Cultura ?
Saint-Aunès.
Saint-Aunès. Voilà, donc en effet, c'est pas très loin.
Donc okay. N'hésitez pas, j'échangerai avec chacun avec plaisir.
Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Casanova.
Merci à vous.
Et à bientôt sur L'Épluche Livre.
L'Épluche Livre.
Avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Alors, que faut-il pour faire cette recette?
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Oui, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Lui, ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange.
Des cornichons, de la moutarde, du pain et beurre.